Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons pour l'émission Mosaïque. Et pour cette émission, eh bien, il y a Jacqueline Hulot, Chantal Matelet pour les catholiques, il y a Jean Botvinnik pour les juifs, il y a Catherine Bianchi pour les protestants, il y a Jean-Pierre Dubreuil pour les humanistes et il y a Raymond pour Radio Grand Ciel. Voilà. Eh bien, nous sommes contents de pouvoir quand même faire cette émission, même si nous sommes en période de confinement. Et la première chose que nous abordons toujours dans nos émissions, c'est quels sont les points d'actualité qui nous ont interpellés, ou nous évoquions la mémoire de l'archevêque d'Alger, Henri Tessier, qui était un passeur entre l'islam et le christianisme. C'est quelqu'un qui finalement a anticipé largement, et dans un pays musulman, ce dialogue interreligieux. Jean Botvinnik, donc vous vouliez nous en parler.
C'était très intéressant de savoir que cet archevêque, qui est né en Algérie, fait sa carrière en Algérie et qu'il est devenu après la libération de l'Algérie, il est devenu, il a demandé la nationalité algérienne. Et c'était quelqu'un qui a apparemment, qui a enseigné, qui a participé à des colloques de réunion avec donc les musulmans. Et j'ai trouvé une phrase qu'il a dit qui m'a beaucoup plu, naturellement. Monseigneur Tessier disait que le terme salam, paix en arabe, constitue l'un des fondements du christianisme. Jésus se plaisait à enseigner à ses disciples qu'à chaque fois que le seuil d'une maison était franchi, il fallait impérativement prononcer le mot « paix », que l'islam, le christianisme et le judaïsme sont certes trois religions différentes qui ont toutefois une source et une finalité commune qui est le bonheur de l'humanité. Pour nos trois religions, c'est effectivement le but suprême de travailler pour le bonheur de l'humanité et pour la vie.
Eh bien voilà, donc merci Monseigneur Tessier de nous avoir appris, d'avoir semé les petites graines pour le dialogue interreligieux. Je crois aussi que vous vouliez nous parler, Jean, de l'intervention européenne sur l'antisémitisme, le 3 décembre.
Le 3 décembre, et je pense que c'est un petit pas, peut-être théorique, certes, pour le mieux vivre ensemble que notre émission régulière essaye de prôner. Nous allons fêter du 10 au 18 décembre 2020 la fête de Hanouka, fête des Lumières, ou plutôt la fête de la dédicace du Temple de Jérusalem, comme l'écrit si bien d'ailleurs Saint Jean au chapitre 3 de son évangile. Elle commémore la victoire des Juifs contre la deuxième tentative d'anéantissement du judaïsme. Les menées antisémites ne datent pas d'hier. Voilà d'ailleurs ce qu'écrit Tacite, un historien romain. Le roi Antiochus s'efforça d'ôter aux Juifs leur fanatisme et de polisser cette race abominable. Déjà, chez les Romains, on peut entendre des paroles antisémites. L'augmentation des incidents antisémites et des crimes de haine dans le contexte de la pandémie Covid a fait adopter jeudi 3 décembre 2020 une déclaration par les 27 membres de l'Union européenne. Ils déclarent très préoccupante cette augmentation et demandent que la lutte contre l'antisémitisme doit être prise en compte de manière cohérente par les Européens. Des mesures contre la suppression rapide des discours de haine illégaux et les contenus terroristes en ligne, une réponse judiciaire forte et systématique aux actes antisémites, à une éducation sur l'Holocauste. L'antisémitisme est un phénomène qui touche l'ensemble de l'Union européenne. Il faut donc un ensemble approprié d'instruments européens. Et pour ma part, je suis très content de cette prise de position, disons officielle, ne serait-ce que théorique, mais comme ça, on sait que l'antisémitisme est officiellement condamné quelque part.
Voilà, bien merci pour ces échos de l'actualité qui montrent que la préoccupation du vivre ensemble est quelque chose de commun et finalement on peut s'en réjouir en Europe. Alors, vous avez évoqué en même temps la fête de Hanouka, donc on peut passer aux fêtes de fin d'année. Et ce qui me paraît intéressant aussi, c'est que l'interprétation de Hanouka, là, c'est véritablement la fête pour avoir la liberté religieuse.
Tout à fait. La fête commémore le premier pas vers l'anéantissement d'une religion.
Et la résistance de cette religion.
Et à partir de cette volonté délibérée d'empêcher la circoncision, on va retrouver des choses actuelles en Europe, d'empêcher la circoncision, l'abattage rituel des bêtes, ça c'est la même chose pour les musulmans, ou bien d'autres, par exemple l'observance du Shabbat aussi à l'époque, était une atteinte grave à la religion, mais apparemment les Judéens de l'époque, les Juifs de l'époque avaient, essayaient de vivre avec ça en cachette, mais ce qui a provoqué la révolte, c'est le fait de l'obligation d'aller sacrifier des porcs au temple de Jérusalem. Et à partir de là, il y a eu une révolte non pas des édiles, non pas des prêtres, des Cohen, des prêtres qui
pactisaient d'une certaine manière avec l'autorité romaine.
Absolument, et qui en tiraient des subsides conséquents d'ailleurs. Eh bien, le peuple, avec une famille que tout le monde connaît, puisque c'était les Maccabées, ont pris le maquis et au bout de 3 ans, ils ont réussi, avec 10 000 hommes, à battre les 30 000 hommes gréco-syriens et à effectivement revendiquer l'existence de la religion et la liberté d'y croire. Ils n'empêchaient pas du tout les autres religions à côté d'eux de croire ce qu'ils voulaient, mais eux-mêmes, ils ont réussi à prôner que leur religion était aussi intéressante que les autres. Depuis ce temps-là, nous fêtons très régulièrement les 8 jours de Hanouka, les 8 jours de cette fête, de la dédicace en fait du temple, et donc qui doit avoir lieu bientôt.
Alors, au travers de ces questions, comment les fêtes, les usages des religions, mais aussi comment, pour certains ce sera le sport, pour d'autres ce sera la musique, entraînent un certain séparatisme plutôt à destination d'un islam qui est téléguidé de l'étranger. Alors, je ne sais pas comment vous le ressentez, parce que de fait, nous voulons vivre ensemble.
Du côté juif, on est, depuis l'émancipation sous la Révolution, que les juifs sont devenus des êtres égaux et libres, à l'instar des autres habitants de la France. De notre côté, le séparatisme, enfin, les Juifs ne sont pas séparatistes, ils obéissent à la loi de l'État, en dehors éventuellement des demandes extraordinaires comme tuer son voisin. Ils obéissent à la loi de l'État, ne sont pas forcément perturbés, essayent de s'adapter en permanence à la loi de l'État.
Mais, par contre, ils veulent maintenir leur liberté religieuse.
Absolument. La loi de séparation de l'Église et de l'État, quelque part, ça permet relativement facilement de maintenir sa religion, de maintenir les activités religieuses. On n'est pas en opposition, le judaïsme français n'est pas du tout en opposition avec la République. La République oblige depuis la loi à ce que les communautés s'organisent elles-mêmes, sans être payées en dehors de l'Alsace-Lorraine, sans être payées en quoi que ce soit par l'État. Et ma foi, on accepte tout à fait cette possibilité.
Donc là, on retourne à la loi de 1905, la séparation des églises et de l'État, et aucun subside pour les églises. Et ça permet aux gens de vivre chacun leur vie religieuse là où ils sont, en respectant les autres.
Alors, c'est la loi de 1905, mais par exemple, chez les protestants, nous respectons bien entendu comme nos amis juifs, mais je veux dire que la loi de 1905 a fait asseoir un petit peu que la religion protestante pouvait s'exercer dans les règles de la République, mais, comment dirais-je, bien entendu, les différentes lois, comme je pense au mariage pour tous, ou au mariage entre couples homosexuels, il a fallu que notre Église réfléchisse et prennent position pour savoir. Et donc le mariage est tout à fait reconnu entre homosexuels chez les protestants. Donc, alors je veux dire qu'il a fallu s'adapter à mesure des lois publiées pour que notre Église puisse suivre dans la République le quotidien.
Alors c'est vrai aussi, par exemple, pour l'exemple que tu as pris, il y a les lois qui obligent, comme la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État, mais il y a les lois auxquelles on peut ne pas souscrire personnellement. Je n'empêche pas les amis de se marier entre personnes du même sexe, ou bien de... Ce sont des lois qui permettent à chacun de mener sa vie, mais qui ne sont pas obligatoires. Et ça me paraît aussi important de distinguer les lois qui obligent tout le monde, on s'arrête tous au feu rouge, la loi de séparation des Églises et de l'État permet un champ commun et à chaque religion de pouvoir vivre, mais par contre, la loi sur l'avortement qui est bonne pour un certain nombre de personnes qui sont dans des situations de détresse, n'oblige pas une personne qui veut garder son enfant à avorter. Voilà, je crois qu'il y a des lois qui favorisent la vie sociale, mais qui ne sont pas des lois obligatoires. Par contre, il y a des lois qui obligent parce que la vie en commun les exige.
Oui, il y a la liberté de conscience qui intervient quand tu parles de l'avortement automatiquement. Chacun est libre après.
Bien sûr, mais comme chez nous aussi, le mariage homosexuel, le pasteur peut faire jouer sa liberté de conscience, ne pas souhaiter célébrer ce mariage, mais ce sera un autre pasteur qui le fera. C'est comme ça, donc c'est tout à fait normal. Comme de plus en plus, maintenant, comme le baptême d'un enfant, beaucoup de plus en plus, les pasteurs ou les officiants s'interrogent de dire qu'un enfant n'est pas en mesure de prendre ses décisions et il faut attendre qu'il ait eu un enseignement et qu'il soit plus adulte pour célébrer son baptême. Donc, certains pasteurs préfèrent ne pas baptiser un enfant en bas âge, par exemple. Mais l'enfant sera baptisé, si les parents souhaitent qu'il soit baptisé, ce sera fait par un autre pasteur.
On ne doit pas opposer en permanence toutes les lois laïques à la religion.
Oui.
Il y a des lois laïques qu'on est obligé
d'obéir,
et puis il y a des lois qui ont été votées par les laïcs, par nos représentants, qui concernent certains aspects de notre vie à ce moment-là privée, et les religions ne sont pas forcément obligées d'aller obéir à marier, si on ne peut pas marier des homosexuels, des choses comme ça. Mais ces gens-là sont mariés laïquement, peuvent se marier laïquement, puisque la loi laïque a été votée pour.
Ce qui est intéressant, donc, c'est qu'effectivement, dans la société, on respecte la foi des gens, mais ce n'est pas à la foi de dicter la loi. Ça me paraît intéressant, cette distinction.
Oui, enfin, c'est exact, ceci dit, quand une personne prend une position, c'est une personne qui est faite à la fois de son intelligence et de ses croyances et de sa foi. Hein. Donc après, bah, bien sûr, les lois sont votées à la majorité, hein, dans le meilleur des cas. Hein. Enfin, moi, je fais allusion au fait que pour l'Europe, il y a l'idée de l'unanimité, et ceci, je pense, est mauvais. Hein. Bon. Mais quand on est pris dans une certaine ambiance, des fois, on subit la pression du groupe, la pression des gens qui nous entourent, qu'ils soient proches d'un point de vue familial ou proches d'un point de vue de voisinage. Et eh bien, ça peut amener des conflits assez difficiles. Moi, il y a une question que je vais mettre là, mais ça fait plusieurs fois que j'y pense, et je n'ose pas. La loi de 1905, moi, je suis pour, hein, puisque j'ai passé un bon moment de ma vie à défendre cette loi. Hein. Ceci dit, il y a le problème des bâtiments. Depuis 1905, les églises construites avant, maintenant, sont de la responsabilité des communes, de l'État. Oui. Voilà. Hein. Bon. Le problème qui se pose pour les musulmans, c'est celui de construire des mosquées. Et alors, on est devant ce terrible dilemme. Est-ce qu'on les aide ou est-ce qu'on laisse des puissances étrangères les payer? Et ça, c'est la source de l'ingérence du politique dans la vie religieuse, avec les conséquences de radicalisation que l'on connaît. Là, je trouve qu'il y a un problème qui, pour moi, est insoluble. Je ne peux pas dire l'État va payer pour les mosquées, mais je reconnais que l'absence de mosquées est un problème.
Je crois que tu soulèves un problème effectivement très important. Alors c'est vrai que la grande mosquée de Paris a été construite par l'État en reconnaissance des services rendus par les Algériens pendant la guerre. Et je crois qu'il y a aussi, par le biais des associations culturelles, quelquefois des aides de l'État pour acquérir un terrain ou pour faciliter la construction de ces bâtiments religieux qui sont nécessaires pour l'exercice du culte. Mais c'est vrai que là, je crois que il faut que le gouvernement à la fois s'intéresse et contrôle la venue de ces interventions étrangères qui se font en disant « nous avons construit la mosquée, mais par contre nous voulons nommer l'imam ». Et je crois que là, c'est de fait un point sur lequel il faut intervenir pour faire en sorte que ce ne soit pas l'islam ou...
Le projet de loi doit s'occuper de ça.
Mais même les églises qui sont déclarées comme étant construites avant 1905, étant du ressort de l'État, des communes, etc., pour l'entretien, moi je dis, ça pose question. On paye des impôts, tout le monde paye des impôts, et quand on voit qu'il y a des églises qui sont maintenant très peu habitées par les chrétiens, pourquoi continue-t-on à faire payer toutes les populations? C'est vrai que c'est un patrimoine, comment on appelle ça, un patrimoine bâti. Mais
souvent, l'église d'un village, c'est la seule œuvre d'art un peu importante du village.
Néanmoins, au nom des fois de ce qu'est, c'est un bâtiment entre guillemets sacré, on empêche certains concerts d'avoir lieu dans les églises. Et en même temps, moi j'ai entendu dans ma commune des gens qui disaient ben nous on paye hein, pour que cette église soit entretenue, mais il y a un concert qui vient, et comme ce n'est pas un concert sacré, et ben non.
Oui. Attention, ben oui. La décision du choix du concert dépend de
l'affectataire selon la loi.
Ben oui.
Donc je veux dire que c'est pas l'État, c'est pas le maire qui décide du choix du concert
c'est un bâtiment qui est quand même qui appartient à une commune.
Donc, ah oui, non.
Normalement, tout le monde peut y rentrer dedans. Et moi, je trouve que c'est. Il y a des gens. On va faire des guerres par rapport à ça, parce qu'il y a des gens qui disent oui. Alors nous, on paye l'entretien d'une église. C'est que les chrétiens qui l'habitent se débrouillent.
Eh oui.
Oui. Et regarde le problème de la chapelle qui va être vendue. Là,
ça.
Et bien regarde les gens du quartier qui ne pratiquent pas et tout, et qui sont contre la démolition. Mais, parce que ça rappelle des souvenirs de famille. Parce que là, c'est concret. Pour Dreux, c'est concret. Hein.
Oui. Moi, c'est un questionnement. Moi, c'est un vrai questionnement pour moi.
De toute façon, nombre d'églises qui sont catholiques, qui sont vendues, elles deviennent des habitations personnelles, des salles de spectacle, des salles de restaurants ou autre chose. Donc je veux dire que le patrimoine est préservé, oui, le bâti, mais il n'y a plus le côté sacré.
Mais il y a une cérémonie probablement de désacralisation, et à ce moment-là, ça devient, pour le religieux, ça devient un bâtiment quelconque. Tant que ce n'est pas désacralisé.
Je voudrais juste rebondir sur ce que disait Jean-Pierre sur le financement des mosquées. Chez les protestants, après la loi de 1905, il y a eu des églises, des temples qui ont été construits, et ça a été financé par les paroissiens.
Je suppose que c'est pareil pour les catholiques.
Pour les catholiques et pour les musulmans. Parce que nous, une fois nous a dit que certaines mosquées, c'était les pratiquants qui sont venus.
Ce sont les musulmans eux-mêmes.
Mais c'est vrai qu'il y a un risque, c'est vrai que l'argent, effectivement, vienne de.
Quand l'argent vient de l'étranger, il faudrait contrôler.
Ça va être.
Pour répondre à ta question, moi je trouve que l'exemple de Luret, c'est une bonne chose.
Ça a été quelque chose de parfaitement. J'aurais aimé en discuter avec Monsieur Fillon, parce que je trouve ça très intéressant. Parce qu'on peut aller célébrer. Il y a d'ailleurs une partie de l'église qui est
voilà.
Où il y a un hôtel qui est resté.
Pour moi, c'est la première fois que je vois, mais je trouve
c'est
que...
intelligent.
Ah oui, oui,
c'est
oui.
De façon intelligente.
Voilà.
On n'y fait pas des surprises parties, c'est sûr. On n'y fait pas des. Mais il y a des expositions régulièrement, des expositions de peinture et de.
Alors après, je ne sais pas après comment ça fonctionne au point de vue entretien, au point de vue.
C'est un bâtiment communal, donc c'est la commune.
C'est la commune.
C'est la commune.
L'église de Lurette, c'est une église bâtie avant la loi de 1905, donc qui appartient à la commune.
C'était avant. Ah oui. Bah, tu vois, je ne savais pas.
Donc il y a moyen de trouver des arrangements.
Exactement.
Et puis de toute façon, comme chez nous, c'est dans les temples, je veux dire, si le temple il met à disposition pour un concert ou autre, une conférence éventuellement, eh bien, une petite demande de participation pour chauffer l'espace ou l'éclairage. Je veux dire qu'il y a une participation des gens qui l'occupent un soir ou une journée pour financer. Donc, c'est très bien de faire vivre ces bâtiments.
Exactement.
Donc là, en fait, on a abordé la question du patrimoine religieux qui sert à l'exercice du culte et qui peut être mis à disposition des chrétiens, des gens qui sont de la religion et des autres.
Et non seulement ça, mais je trouve que c'est un témoignage. Quelque part, pour moi, c'est un témoignage. Parce qu'une église, un lieu, il y a un prêtre qui a dit à l'occasion de l'accueil des réfugiés, qu'il avait ouvert l'église en disant « il n'y a aucune raison de les laisser dehors, moi ils vont dormir ici, on va les nourrir, etc. » On a dit « vous allez être mis en prison ». Il a dit « mais je suis désolé, moi je veux bien aller en prison, mais moi l'église, une église a priori c'est un asile ». Et c'est vrai, c'est un asile. Les cathédrales, elles étaient habitées par des gens de toutes sortes qui venaient y manger, y dormir, etc. Et on était protégés. On était protégés, on n'avait pas le droit de... Un soldat n'avait pas le droit de rentrer dans une église et d'aller. Je trouve ça intéressant qu'on n'oublie pas ça, en fait, compte. Alors, si nous, chrétiens, on pense que dans une maison église, c'est pas un asile où les gens peuvent aller, pas pour faire n'importe quoi, bien sûr, mais un asile, on peut se retrouver, quel que soit d'où on vienne. Je trouve ça, mais pour moi, c'est quelque chose qui est important. Important. Pour moi, c'est ça la paix. C'est shalom. Rentre. La paix soit là.
Eh bien, vous savez que le temps s'écoule et que nous avons abordé non pas les fêtes religieuses Noël, mais tout le monde connaît ce qu'est Noël. Et puis, éventuellement, nous pourrons en reparler au mois de janvier, puisque l'épiphanie, c'est la manière de fêter Noël chez les orthodoxes. Mais le temps s'écoule. Merci d'avoir évoqué ces questions du patrimoine religieux qui est au service des communautés qui ont construit ce patrimoine, mais aussi au service de tous les hommes. Et c'est une réflexion tout à fait intéressante qui évoque aussi comment les nouveaux venus avec leur propre religion peuvent avoir des bâtiments pour célébrer leur culte. Merci aux uns et aux autres, et aux auditeurs, je dis bonne semaine à tous, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Égalité et respect dans le monde entier. Mieux communiquer et nous respecter.
Tous frères et sœurs, s'entraider, mais surtout s'aimer.